VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est 18h30 TU, le monde aujourd'hui, édition du mercredi 7 juin 2017. John Lyndon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, la France a présenté hier un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour la mise en place d'une force africaine de lutte contre les djihadistes et les trafiquants de drogue au Sahel. Au Cameroun, les leaders de la contestation dans la zone anglophone du pays resteront en prison. Décision prise par le tribunal militaire de Yaoundé. Nous irons au Canada où de plus en plus de personnalités africaines investissent dans l'immobilier.
Ils viennent de 6 pays différents, l'Algérie, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Sénégal et le Tchad. Il y a aussi un contact le camerounais là, de l'espèce de réseau que j'ai trouvé.
Et puis nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Claire Morin-Gibourg pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Le Sénégal a annoncé le rappel de son ambassadeur au Qatar et s'est dit solidaire des pays de la péninsule arabique et de l'Égypte qui ont rompu leurs relations diplomatiques avec Doha en l'accusant de soutien au terrorisme. C'est ce qu'affirme ce mercredi un communiqué du ministère sénégalais des Affaires étrangères. Une mission d'experts de l'ONU est attendue ce mercredi en Côte d'Ivoire pour aider la justice dans l'enquête sur une cache d'armes découverte dans la résidence du chef du protocole du président de l'Assemblée nationale, a indiqué le porte-parole du gouvernement. L'enquête contre Souleymane Kamakaté, dit Soul to Soul, chef du protocole de Guillaume Soro, a été ouverte après la découverte le 15 mai, pendant les mutineries qui ont secoué le pays, d'une cache d'armes dans un logement donné pour être sa propriété à Boaké, deuxième ville du pays. La France a présenté mardi un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU pour le déploiement d'une force militaire africaine chargée de combattre les djihadistes et les trafiquants de drogue dans le Sahel. Tatiana Mosso.
Le Conseil devrait voter sur cette proposition de résolution la semaine prochaine. Le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Burkina Faso, qui composent le G5 Sahel, ont accepté en mars de constituer une force de 5000 hommes chargée de cette mission. Le quartier général de la force sera basé au Mali, mais sera sous commandement séparé de celui des 12 000 casques bleus de la MINUSMA qui sont déployés au Mali depuis 2013. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Ibrahim Yacouba, en déplacement à Bamako, a indiqué que le G5 espérait avoir un mandat de l'ONU d'ici la fin juin permettant de déployer la force. L'Union européenne a annoncé lundi lors d'une visite dans la capitale malienne une aide de 50 millions d'euros pour la mise en place de cette force. Les djihadistes qui ont fondé une nouvelle coalition ont multiplié ces derniers temps des attaques meurtrières au Mali, au Niger et au nord du Burkina Faso.
Le prochain sommet du G5 Sahel se déroulera le 2 juillet à Bamako en présence du président français Emmanuel Macron. L'annonce a été faite par les ministres des Affaires étrangères des pays concernés au terme d'une réunion dans la capitale malienne. L'Union africaine et les Nations unies ont proposé une réduction majeure de leurs forces conjointes de maintien de la paix au Darfour, déployées il y a 10 ans et qui coûtent 1 milliard de dollars par an. Un rapport conjoint envoyé au Conseil de sécurité le mois dernier recommande de baisser de 44% le plafond des effectifs militaires et de 30% ceux des policiers. Le Conseil de sécurité devrait débattre de la question la semaine prochaine. Le chef militaire de la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique, a menacé de renvoyer chez eux des casques bleus congolais accusés d'abus sexuels et d'indiscipline. Selon le rapport, l'an passé, 120 des 750 soldats congolais ont déjà été rapatriés après des allégations d'abus sexuels et d'exploitation qui ont fait au moins 7 victimes, dont 6 enfants. Le gouvernement béninois se voulait rassurant mercredi sur l'état de santé du président Patrice Talon en France depuis plus d'une semaine, malgré les spéculations grandissantes et les inquiétudes dans le pays. Il séjourne à Paris, il profite de son séjour pour faire un bilan de santé, a expliqué le ministre des Affaires étrangères Aurélien Agbenonci. Guédé Mantashe, le secrétaire général du Congrès national africain au pouvoir en Afrique du Sud, a reconnu mercredi que les multiples scandales de corruption qui entourent le chef de l'État, Jacob Zuma, abîmaient l'image du parti. Jacob Zuma est fragilisé par une série de scandales politico-financiers. Il est accusé notamment de favoriser les intérêts privés d'une fratrie d'hommes d'affaires dans les Gupta. Toujours en Afrique du Sud, au moins 8 personnes sont mortes lors du passage mercredi d'une violente tempête dans la région touristique du Cap, qui a entraîné la fermeture de plusieurs routes et de nombreuses évacuations. L'ex-premier ministre du Lesotho, Thomas Tabane, de retour d'un exil de 2 ans, est arrivé en tête des élections législatives. Il sera chargé dans les prochains jours de former un nouveau gouvernement.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Attaque meurtrière en Iran. Au moins 13 personnes ont été tuées et 46 blessées à Téhéran. Des hommes armés et des kamikazes ont attaqué le Parlement et le mausolée de l'imam Khomeini. Pour la première fois, le groupe État islamique revendique une attaque sur le sol iranien. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Les assaillants, déguisés en femmes, ont fait irruption au siège du Parlement et ont ouvert le feu. L'un d'entre eux s'est ensuite fait exploser et les autres ont été tués. Les victimes sont essentiellement des travailleurs du Parlement, car les terroristes n'ont pas pu accéder à la salle de la plénière. Les députés ont continué leur session dirigée par le président du Parlement, Ali Larijani. Presque au même moment, au mausolée de l'imam Khomeini, des terroristes ont tiré des coups de feu et deux d'entre eux, dont une femme, ont actionné leur ceinture explosive. L'Iran chiite est engagé militairement en Syrie pour soutenir le régime de Bachar al-Assad. Le groupe djihadiste sunnite avait menacé en mars de s'attaquer à l'Iran et provoquer un bain de sang chez les chiites. Les gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime iranien, ont accusé les États-Unis et l'Arabie saoudite d'être impliqués. Ils ont fermement promis de venger le sang des innocents.
Le département d'État américain, dans un communiqué, a condamné ces attaques et présenté ses condoléances aux victimes et à leurs familles. Toujours au Proche-Orient, une ONG palestinienne estime qu'Israël cherche à défier les États-Unis et la communauté internationale tout en créant de nouveaux obstacles à la paix. En cause, la décision prise hier par une commission relevant du ministère de la Défense israélien de faire avancer les plans de construction de 1500 logements en Cisjordanie occupée, dont une nouvelle colonie, une première depuis 25 ans. L'identité retrouvée sur le djihadiste qui a attaqué au marteau mardi un policier devant la cathédrale Notre-Dame de Paris correspond à celle d'un Algérien de 40 ans, doctorant en sciences de l'information de l'Université de Lorraine. L'assaillant, qui a été blessé après riposte de la police, portait des papiers au nom de Farid 1. La police britannique a révélé mardi l'identité du troisième auteur de l'attentat qui a ensanglanté Londres samedi soir. Youssef Zagba est un Italien d'origine marocaine de 22 ans, né à Fès d'un père marocain et d'une mère italienne convertie à l'islam. Il a grandi au Maroc où il avait entamé des études d'informatique. Sa mère a expliqué à un journal italien qu'il s'était radicalisé sur Internet et qu'il avait tenté de se rendre en Syrie. Les législatives en Grande-Bretagne, c'est demain. C'est le dernier jour de cette campagne pendant laquelle les attentats djihadistes ont ravi la vedette au Brexit. Morgan Guiriec.
La première ministre Theresa May et son adversaire Jeremy Corbyn tiennent leurs ultimes meetings. La sécurité est au cœur des débats. Le Royaume-Uni a été le théâtre de 3 attaques meurtrières en moins de 3 mois, toutes revendiquées par le groupe État islamique. Jeremy Corbyn accuse Theresa May de maintenir la sécurité du pays à moindre frais. Il promet de recruter 10 000 nouveaux policiers et 1 000 agents supplémentaires pour les renseignements. De son côté, la chef du gouvernement a déclaré qu'elle pourrait restreindre certains droits pour réduire la liberté de mouvement des personnes suspectées d'activités terroristes et faciliter leur expulsion du territoire britannique. Les résultats de ces premières législatives depuis le Brexit restent incertains. L'écart de plus de 20 points qu'avait en avril la formation de Theresa May s'est réduit de manière drastique. À la veille du scrutin, les travaillistes talonnent les conservateurs.
Le président américain Donald Trump a annoncé aujourd'hui qu'il envisageait de nommer Christophe Wray comme nouveau directeur du FBI après le limogeage de James Comey depuis début mai. Jacques Aristide.
Un homme aux états de service impeccable, les mots du président Trump sur Twitter à propos de Christopher Wray, qui a notamment servi comme adjoint du ministre de la Justice américain dans l'administration de George W. Bush entre 2003 et 2005. Il avait travaillé au sein d'un service en charge des affaires de fraude commises par des entreprises et de dossiers concernant les marchés financiers américains. Il travaille actuellement pour un cabinet d'avocats à Washington et Atlanta. Un ancien responsable du FBI s'est toutefois interrogé sur la capacité de Christopher Wray à diriger la police fédérale, agence qui compte plus de 35 000 employés. Le Sénat doit approuver le choix de Donald Trump. Son annonce intervient à la veille de l'audition de l'ex-patron du FBI, James Comey, devant la commission du renseignement du Sénat sur le rôle joué par la Russie accusée d'ingérence dans la présidentielle américaine. Le FBI enquête également sur de possibles collusions entre des membres de l'équipe de campagne du milliardaire et Moscou.
Et puis la défense de l'acteur américain Bill Cosby a passé plusieurs heures aujourd'hui à interroger la femme qu'il accuse d'agression sexuelle. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
Nouveau décaissement pour la construction du pont de Rosso sur le fleuve Sénégal. Amadou Ba, ministre sénégalais de l'économie, et Ambroise Fayol de la Banque européenne d'investissement ont signé un contrat de financement de 22 millions d'euros à l'occasion des journées européennes du développement qui se tiennent à Bruxelles. Projet existant depuis plus de 50 ans, le pont de Rosso est le chaînon manquant du corridor transafricain numéro 1 entre Dakar et Le Caire. La compagnie aérienne Air Portugal, qui opérera dans le ciel ivoirien dès juillet 2017, effectuera des vols directs à Abidjan-Lisbonne. La Côte d'Ivoire devient une destination privilégiée des investisseurs depuis la fin de la crise post-électorale de 2011-2012 en raison de son environnement économique jugé favorable. En 2016, le trafic à l'aéroport d'Abidjan a atteint les 2 millions de passagers en augmentation de 16%. Kirou, le premier studio de création de jeux vidéo camerounais, vient de lancer Kirou Rembuntu, une plateforme de formation à la recherche de financement pour les porteurs de projets africains. Objectif, former 10 000 entrepreneurs en Afrique francophone.
Une musique qui ne trompe pas, Nicolas Pinault est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par la série de matchs amicaux ce soir sur la planète football.
Sans Cavani, Suarez, Verratti ni Balotelli, l'Italie-Uruguay en match amical disputé ce soir à Nice perd un peu de sa splendeur, mais reste un choc de prestige entre deux sélections qui ont gagné 6 Coupes du Monde à L2. Edinson Cavani, le buteur du Paris Saint-Germain, s'est blessé à un mollet au bout de 10 minutes du précédent match amical qui avait été perdu dimanche par l'Uruguay. C'était à Dublin contre l'Air, 3-1. Autre choc ce soir, Espagne-Colombie à Murcie. La saison a été frustrante pour James Rodriguez en partance du Real Madrid, faute de temps de jeu, mais le milieu offensif colombien peut s'offrir une belle revanche sur son pays d'accueil lors de ce match amical.
Manchester, le club le plus cher du monde.
Manchester United est le club de football européen le mieux valorisé devant le FC Barcelone et le Real Madrid, leader en la matière lors des 4 précédentes saisons. C'est ce qu'a établi le magazine économique américain Forbes dans son classement. La valorisation de Manchester United à l'issue de la saison 2015-2016 est estimée à 3,69 milliards de dollars. Soit une progression de 11% sur un an. On rappelle que le club anglais devance le FC Barcelone, le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester City.
Et puis tennis, tournoi de Roland-Garros.
Oui, Novak Djokovic ne détient plus rien. Au sommet, il y a un an, le Serbe a perdu son dernier titre du Grand Chelem aujourd'hui à Roland-Garros. Une défaite 7-6, 6-3, 6-0 contre le jeune Autrichien Dominic Thiem qui défiera Rafael Nadal en demi-finale. L'Espagnol en quête d'un 10e titre sur la terre battue parisienne. N'est resté que 51 petites minutes sur le court jusqu'à l'abandon au début du 2e set de son compatriote Pablo Carreño touché aux abdominaux.
Et on termine, Nicolas, par le 3e match de la finale NBA la nuit prochaine.
Et oui, le 3e match ce soir entre Cleveland et Golden State. Hier, en conférence de presse, l'entraîneur de Golden State, Steve Kerr, et sa star Stephen Curry ont assuré qu'ils étaient concentrés sur la conquête du titre NBA et non sur la possibilité historique de réaliser des playoffs parfaites avec 16 victoires sans une seule défaite. On rappelle que les Warriors ont enchaîné 14 victoires de suite, nouveau record NBA, en dominant respectivement Portland 4-0, Utah 4-0 et San Antonio 4-0. Pour le moment, ils mènent 2-0 dans cette finale.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui, cap à présent au dossier du jour. Et on commence par le Cameroun, où la liberté provisoire a été refusée aux deux des trois leaders de la contestation en zone anglophone du pays. Agbor Bala, avocat international, et Fondem Neba, enseignant d'université, sont poursuivis pour actes de terrorisme. Correspondance à Yaoundé d'Emmanuel Juntap.
La présidente du tribunal militaire de Yaoundé s'est abondamment appuyée sur la loi antiterroriste du Cameroun pour prendre la décision de maintenir l'avocat Agbor Bala et l'enseignant Fontem Neba en prison. Rappelant au passage que pour les poursuites consécutives aux actes de terrorisme, la mise en liberté provisoire sous caution n'est pas prévue par la loi. À cette décision prononcée par Dame Eko, il n'y a eu que le silence de la défense face au micro des journalistes. Seul l'avocat Wallace Koumé expliquera le sentiment mitigé des avocats après la décision de maintenir un de leurs collègues en prison durant ce procès.
International law has privilege.
Le droit international est supérieur au droit national. Les avocats que nous sommes avions plaidé pour leur libération selon le droit international. Mais pour le tribunal criminel, ils ne peuvent l'être dans cette circonstance parce qu'ils sont poursuivis pour des crimes punis de peine de prison à vie ou de mort.
Le 29 juin, l'audience reprend de plus belle, cette fois-ci pour le débat de fond. Et Maître Wallace Koum espère que justice sera rendue à qui de droit.
La décision conforte les avocats et les accusés dans une bonne position parce que l'affaire sera jugée et la justice sera rendue. Nous prions que la justice soit en leur faveur. Si cela n'est pas le cas, nous serons frustrés.
Arrivé au tribunal militaire de Yaoundé en culotte, pieds nus, chemise déboutonnée, l'autre accusé de proue dans l'affaire, l'animateur Manto Bibiti, est reparti de l'audience en criant à haute voix « Saddam's Cameroon will win ». Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA, Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Burundi, le carburant est une denrée rare depuis presque deux mois, ce qui perturbe le quotidien de milliers de personnes, tant à Bujumbura, la capitale, qu'à l'intérieur du pays. Notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza, a parcouru le centre-ville de Bujumbura.
Il est 6h GMT sur l'avenue de l'université qui divise les quartiers Roero de Nyakabiga et Biza. Une longue file de véhicules sont en train d'être servis sur une des trois stations de l'avenue. Mais vers 10h, aucun véhicule n'est plus servi. Le gérant affirme que le stock de fuel est déjà terminé. Quand on se dirige vers le centre-ville de Bujumbura, aucune station n'est de service. À l'avenue du Large, une petite file de véhicules est visible devant la station. Plus au sud de la capitale, devant le parking du quartier de Musaga, une jeune maman accompagnée de sa mère se rend vers la province de Rutana, au sud-est du Burundi. Elle indique que ces derniers temps, les prix du ticket de transport ont grimpé.
Parfois, on demande 10 ou 12 000 francs burundais, mais avant la pénurie de carburant, on payait 6 000 pour le transport à Rutana. On payait 7 000 aux agences de voyage. Aujourd'hui, on fait payer 8 000 ou plus selon la disponibilité du carburant. Nous pouvons avoir les bus pour le sud du pays, mais ils ne font pas légion comme avant. Que les autorités fassent le nécessaire pour disponibiliser le carburant.
C'est un voyage également vers la société sucrière de Mosso, ce saumon en sigle, de la commune de Bukemba en province de Rutana au sud du Burundi. Il estime que le prix n'a pas beaucoup augmenté pour cette agence de transport Memento.
Ça arrive qu'on manque les déplacements, le prix reste le même. C'est 10 000 francs de Bujumbura jusqu'à ce saumon. Ça arrive qu'on manque les déplacements. Dans le voyage, on peut prendre d'autres véhicules, mais c'est cher par rapport à Memento. Memento, ça va.
Les prix ont augmenté pour des agences de transport de l'intérieur du pays, entraînant la hausse des prix des produits. C'est Certains véhicules boycottent se rendent dans certaines localités assez éloignées. Pour ce chef de charron de l'agence Memento, ils arrivent de temps en temps à avoir du carburant, mais difficilement.
Nous approvisionnons dans les stations normales de la capitale. C'est mieux ces derniers temps, car nous arrivons à avoir de temps en temps du carburant. Mais avant, il n'y en avait pas. Quand on n'a pas de carburant, on arrête le transport. On ne peut rien faire sans mazout.
Certains chauffeurs passent des heures et des heures devant des stations sans être servis. Des travailleurs arrivent souvent en retard au service. C'est toute maman de la zone de Roero a préféré mettre dans son parking sa voiture.
Je me débrouille à pied. Maintenant, je dois me lever très tôt pour avoir le lift auprès des amis, des voisins, des sœurs et frères. Je ne fais plus mes propres affaires comme je le voulais. Quand on demande que la situation soit débloquée.
Pénurie de carburant est justifiée par le manque de devises étrangères selon les autorités burundaises. Les ministres de l'énergie et des mines, comme Manirakiza, expliquent que comme la monnaie burundaise n'est pas utilisée à l'extérieur, certains importateurs de carburant ne reçoivent pas les devises équivalentes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, pour la première fois, l'ONU organise une conférence internationale dédiée à l'océan. Les représentants des États et des différents secteurs maritimes du monde entier se rassemblent cette semaine à New York avec un seul objectif, préserver les mers et les océans. Comment lutter contre la pêche illégale au large du Sénégal? Quel rempart face à la montée des eaux pour sauver les côtes ouest africaines? Qui peut empêcher la piraterie maritime dans les golfes d'Aden et de Guinée? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Alerte au faux vaccin contre la méningite dans la sous-région ouest-africaine. Elle est lancée par l'Organisation mondiale de la santé alors que la maladie fait depuis janvier dernier des ravages au Nigeria et au Niger notamment. Suivant ce reportage de notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
Tout est parti du Niger, comme l'explique le ministre de la Santé, Dr Idi Ilyasu Menasara.
Il y a une pharmacie ici à Niamey qui a constaté dans ses lots de vaccins, ce genre de vaccins. Et heureusement, cette pharmacie a eu, en tout cas, à réagir comme le recommande le règlement sanitaire international. Elle a contacté directement cette firme-là. Et effectivement, la firme a confirmé que ce vaccin-là, c'est du vaccin falsifié avec le nom du laboratoire, avec le numéro de lot, la date de péremption. Et la lettre a été adressée à l'OMS. Et c'est en ce moment-là que l'OMS a donné l'alerte pour quand même informer la population qu'effectivement il y a la circulation de ce vaccin en Afrique de l'Ouest.
Il n'y a pas pour l'instant de manifestation post-vaccinale indésirable qui est attribuée à ce vaccin. Malgré tout, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé au Niger insiste sur la vigilance. Docteur Asiwami Pana.
À partir du moment où l'information est donnée à toute la population, il est extrêmement important aux individus qui se font vacciner ou qui prennent des médicaments de faire très attention, de les chercher dans les structures qui sont effectivement habilités à donner ces vaccins-là, à produire ces vaccins-là. Parce que tous les vaccins qui sont vendus doivent être vendus par un canal que le ministère contrôle très bien. Aujourd'hui, on parle des vaccins, mais il faut parler des médicaments en général. Donc aujourd'hui, on assiste à justement à des médicaments qui sont vendus n'importe comment, n'importe où.
Les autorités sanitaires du Niger, elles, ont aussitôt activé les services de veille et de surveillance sur l'ensemble du territoire national, rassure le ministre de la Santé.
On a passé à la télé la photo du vaccin, le lot, l'identification, et on a demandé à toutes ces chaînes d'approvisionnement, une fois qu'ils sont en contact avec ce lot, même si c'est par hasard qu'ils se retrouvent dans leur contact, de contacter les services compétents. Et déjà, nous avons pratiquement tous les inspecteurs de santé du ministère qui sont dans les différentes centrales au niveau des pharmacies pour vérifier pratiquement tous les vaccins qui sont disponibles. Si par hasard ou d'aventure on retrouve ces jarres de l'eau, c'est de le récupérer.
En rappel, l'épidémie de méningite sévit au Niger depuis le mois de janvier dernier. Plus de 5200 cas ont été enregistrés avec près de 360 décès. Abdul Razak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Des hommes politiques, pour la plupart originaires d'Afrique francophone, investissent dans l'immobilier au Canada à cause de la souplesse de la régulation dans ce pays. C'est ce que révèle le Journal de Montréal dans une enquête qui affirme que 30 millions de dollars canadiens sont injectés dans le secteur par ces personnalités, dont certains sont poursuivis en France ou dans leur pays pour biens mal acquis. Abdourahman Dia a joint Hugo Jonka, le journaliste qui a mené l'enquête.
Ils viennent de 6 pays différents, l'Algérie, le Burkina Faso, le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Sénégal et le Tchad. Il y a aussi un contact camerounais de l'espèce de réseau que j'ai trouvé. Puis ils ont investi plus de 30 millions de dollars dans l'immobilier au Québec ces dernières années.
Et qu'est-ce qui les attire au Canada?
Montréal est un bon plan pour eux parce que c'est un marché immobilier assez stable, même comparé aux autres pays riches. Celui de Montréal est très stable. Il n'y a pas eu une grosse correction immobilière, par exemple, ces dernières années, comme on l'a vu aux États-Unis. Donc, Montréal est intéressant et c'est francophone. Ce sont tous des gens de l'Afrique francophone que j'ai trouvés. Et également, il n'y a pas vraiment d'enquête en cours sur des actifs de dictateurs africains en ce moment au Canada, contrairement en France, à la France où il y a des enquêtes en cours, comme vous le savez sans doute, là, sur les biens mal acquis.
Donc, sur le plan juridique, c'est assez facile d'investir au Canada pour ces personnes?
A priori, il n'y a pas trop d'interventions qui se font. Les banques doivent déclarer au service de renseignement financier ici quand un compte est ouvert par quelqu'un qui est proche d'un régime, là, par exemple, quelqu'un qui est proche du président, d'un ministre, d'un dirigeant de société d'État, etc. Mais rien n'empêche cette banque de tenir un compte pour ces gens-là. La plupart de ces personnes-là aussi ont agi sans prendre d'hypothèque. Donc, c'est une façon de procéder pour rester un peu en dessous du radar.
Selon votre enquête, ces personnes n'ont commis rien d'illégal. Où se situe le problème alors?
On ne peut pas dire qu'il y a eu quoi que ce soit d'illégal qui a été commis au Canada par aucune de ces personnes-là. Par contre, il y en a qui ont été questionnés par les services secrets de leur pays, qui ont été jugés dans leur pays, qui sont les sujets d'enquête en France sur les biens mal acquis. Alors, ce sont des enquêtes en cours.
Oui. Et justement, comment réagit-on au Canada suite à votre enquête? Est-ce qu'il y a des appels à enquêter sur l'origine de ces fonds ou même à changer les lois sur l'investissement immobilier?
Oui, l'opposition à Ottawa a demandé une enquête là-dessus, mais le gouvernement n'a pas vraiment réagi, ceci dit, à notre enquête. Pour l'instant, ça passe à rien de ce côté-là. On ne sait pas trop ce que la police fédérale, la Gendarmerie royale du Canada, qui a la juridiction d'enquêter sur ce genre de questions-là, les questions financières transnationales, la GRC ne communique pas sur ces enquêtes, donc on ne peut pas dire si oui ou non notre reportage a déclenché de nouvelles initiatives.
Hugo Jonka, journaliste d'investigation au quotidien Le Journal de Montréal.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Joselle Morissin. Joe Gill était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VO Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VO Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.
Vous
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.